Chapitre 5e, les fantômes de neige. Dans la soirée, le bruit courut dans Paris qu'un crime venait d'être commis dans des circonstances assez tragiques et quelque peu mystérieuses du côté de Saint-Ouen. Comme tous mes confrères, ayant eu connaissance de cette affaire, je me dirigeais vers le théâtre du crime pour les besoins du reportage. Il faisait froid. La neige s'était mise à tomber et couvrait la terre d'un manteau épais. Sur le théâtre du crime, je vis parmi les magistrats, avec M. Ramard, chef de la sûreté, mon ami Martin Numa, son second Prosper, et deux ou trois de ses agents. Martin Numa assistait aux premières constatations, écoutait les déclarations des témoins, des voisins, des amis, des gens qui, toujours en pareil cas, prétendent savoir quelque chose. Il s'agissait d'une affaire assez fréquente, en somme, mais présentant ici un caractère quelque peu mystérieux. On avait trouvé une vieille femme égorgée dans sa chambre attenant un petit magasin de comestibles, une sorte d'épicerie où se vendait de tout, même des choses n'ayant aucun rapport avec l'alimentation. La bonne vieille passait dans le quartier pour avoir de l'argent. On assurait qu'elle gardait dans des cachettes des liasses de valeur et des sacs pleins de pièces d'or et d'argent. Il faut dire qu'à son commerce d'épicerie, elle ajoutait celui de receleuse et de trafiquante d'or. Chez elle, les voleurs à la tire venaient facilement se défaire, contre argent liquide, des objets de valeur encombrants dont la vente était pour eux à peu près impossible. Donc, on avait trouvé la vieille receleuse, le crâne défoncé, la gorge coupée, et chez elle tout était forcé, éventré. Il y avait eu dans son arrière-boutique un pillage en règle. Pour que l'action de la justice fût prompte, qu'elle marchât à coup sûr dès les premiers pas, M. Ramard avait amené avec lui Martin Numa. Je savais que Martin Numa, quand il commençait une enquête, n'aimait pas être dérangé. Je me contentais de lui serrer la main, et je restais avec mes confrères, prenant les notes que M. Ramard, le juge d'instruction, les commissaires, nous donnaient. Puis, comme l'heure pressait, je revins au journal pour la copie de mon article. Je finissais à peine mon papier que le garçon de bureau vint me dire que quelqu'un voulait me parler, me donner des renseignements sur l'affaire de la receleuse. Quelques minutes après, je rejoignis ce visiteur, centre d'espoir, car à chaque affaire de ce genre, nous sommes, dans les journaux, assaillis par des gens de bonne volonté, certes, et aussi par des maniaques, qui éprouvent le besoin de faire des confidences aux journalistes et d'éclairer la presse. Mon visiteur m'avait l'air d'un bon et paisible petit boutiquier. Il était emmitouflé dans un gros cache-nez tricoté par sa bourgeoise, vêtu d'un pardessus épais, car il faisait très froid. « Je viens, M. Courville, me dit-il, pour vous parler de l'affaire de la receleuse. »« Bien, mais pourquoi n'avez-vous pas fait de déclaration au magistrat ?» Mon homme sursauta. « ah mais non, vous comprenez, je suis le voisin de l'épicière. On saurait que c'est moi qui ai mangé le morceau, et ses clients me feraient un mauvais parti. »« Je comprends. Cependant, je ne veux pas rester sans rien dire, pourvu qu'on ne sache pas que c'est moi qui ai donné des tuyaux à la police. »« Je ne dirai rien, je ne vous nommerai pas. J'en suis certain. » Et comme je sais que vous êtes l'ami de M. Martin Numa, je vais vous dire ce que j'aurais dit à lui-même. Parfait, je vous écoute. Oh, pas ici. Nous n'avons rien à craindre. Je n'en doute pas, mais il vaut mieux que ce soit ailleurs, dans un petit café où nous pourrons mieux causer. Venez, venez, j'ai un taxi en bas. Je regardais mon petit boutiquier et lui trouvais alors un air singulier. Il avait des yeux pétillants de malice, des yeux que j'avais déjà vus quelque part. Cette proposition de m'entraîner dans un petit café, de m'emmener en voiture, pour me parler de cette affaire, m'intrigua. Le garçon de bureau se trouvait assis à sa table. Je lui remis les feuilles de ma copie que je tenais encore à la main, en lui disant de les descendre à la composition. Quand nous fûmes seuls, mon petit boutiquier me dit vivement « Oui, c'est moi. Prosper, lui-même, je viens vous chercher de la part du chef. Bravo, qu'est-ce qu'il y a ? Du bon, venez, vite, partons. » « Allons. » Je pris mon chapeau. Pour qu'on ne s'inquiétât pas de moi, je prévins le secrétaire de la rédaction que je me mettais de nouveau en quête de renseignements, et je suivis Prosper, le petit boutiquier voisin de la receleuse, qui avait des tuyaux importants à me communiquer. Personne donc ne pouvait s'étonner de me voir partir et m'en aller avec ce brave homme. Peu après, nous étions dans le taxi qui filait à bonne allure. « Où me menez-vous » demandai-je alors à Prosper. « À l'affût, » me dit-il. À l'affût, tout bonnement, à l'affût d'un gibier de potence des plus audacieux, des plus adroits qui soient. Des ennemis du chevalier Fontis, vous l'avez deviné. Alors c'est pour ce soir. Le chef le pense, et je crois qu'il a raison. » Tout en parlant, pendant que nous roulions, Prosper s'était penché et avait tiré à lui un coffre qui se trouvait à l'avant de la voiture, presque sous le chauffeur. Il en sortit un fourre pantalon de laine, un épais gilet de chasse et une sorte de gros par-dessus. « C'est votre costume, » me dit-il. « Vous allez le revêtir à la place de votre habit de ville. Il fait froid, la neige se remet à tomber ferme, il faut que vous soyez bien équipé pour la partie de chasse. » Se déshabiller et s'habiller ensuite dans un taxi n'est pas une chose des plus faciles. Prosper m'aida à passer ce vêtement solide et chaud. Il me mit au pied des snowboots confortables, dont le caoutchouc était masqué sous une gaine de cuir qui leur donnait l'apparence de gros souliers. Puis il m'entoura le cou d'un cache-nez foncé en laine, me donna une toque en peau de mouton, et il me passa une paire de gros gants fourrés. « Mais, lui dis-je, j'ai l'air d'aller explorer le pôle Nord. Vous ne trouverez pas que c'est trop chaud tout à l'heure. » Rapidement, un homme qui a l'habitude de se mouvoir dans un espace aussi petit, Prosper à son tour se vêtit. Il n'eut, lui, qu'à passer un gros veston, à rouler à son cou le cache-nez et se coiffer d'une toque dans le genre de la mienne. Quelques instants après notre transformation, le taxi s'arrêtait et nous sautions à terre. Après quelques pas, nous passâmes dans une autre rue et nous aperçûmes à peu de distance une équipe de balayeurs et d'employés de voirie, les uns balayant la neige de la chaussée, les autres chargeant du sable et du sel dans des brouettes. « Voilà le chef, » me dit Prosper, en me désignant un homme qui surveillait le travail. Dans cet homme, assurément, je n'aurais jamais reconnu Martin Numa. Martin Numa vint à nous. Il m'examina d'un coup d'œil. « C'est bien, » fit-il, « ça peut aller comme ça. » Puis il parla à Prosper et lui donna quelques instructions. Par discrétion, je me tins un peu à l'écart et me mis à regarder les travailleurs. J'en reconnus quelques-uns que j'avais déjà vus sous d'autres déguisements. Eux aussi me reconnaissaient, et tout en continuant leur besogne, ils me faisaient au passage un petit signe d'intelligence. D'ailleurs, nous étions absolument seuls dans cette rue. Pas un passant, pas une voiture. Dans les maisons, tout le monde dormait. Toutes les persiennes étaient hermétiquement closes. Le jour, l'heure, le moment était donc bien choisi pour qu'il se passât quelque chose, et Martin Numa ne doutait pas qu'il dût se produire un événement sérieux. Chez les ennemis, tout était parfaitement combiné et les circonstances secondaient leur dessein. Martin Numa avait passé la soirée à Saint-Ouen. On était donc certain qu'à cette heure il était loin, en quête, lancé dans cette nouvelle affaire, il ne pouvait venir à Passy. Le temps, très froid, devait, d'un autre côté, tenir le chevalier Fontis au lit. Le vieux serviteur dans ses couvertures. Les chiens engourdis ne pourraient donner l'alarme. Après la clarté des nuits de gel, durant lesquelles on voit très bien, vers le matin s'était abattu sur la ville et plus particulièrement de ce côté de Passy, à cause du bois tout voisin, une sorte d'épais brouillard, puis la neige s'était mise à tomber. L'heure était propice, le moment favorable. À la faveur de ce brouillard, de cette neige, le hardi mafioso qui s'introduisait chez le chevalier Fontis pouvait, aujourd'hui plus commandément que jamais, arriver à ses fins. Quel coup, désormais, s'était demandé le chevalier Fontis et Martin Numa, quel coup vont-ils exécuter? Mon ami m'avait fait part de ses inquiétudes à ce sujet. Ils n'ont pas osé, pas encore pu tuer le chevalier, parce que, probablement, ils ont peur des chiens, parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment la maison, parce qu'ils ignorent si quelques agents ne sont pas postés dans le jardin, si le chevalier Fontis n'est pas gardé spécialement. Mais à présent, ils ont acquis, par ces diverses tentatives qui ont toutes admirablement réussi, la certitude que le chevalier est un brave, un courageux, mais aussi un imprudent. Fort de cela, ils iront jusqu'au bout, jusqu'à l'assassinat. Ayant donné quelques derniers ordres à Prosper, à ses lieutenants, à ses hommes, Martin Numa revint à moi et m'entraîna. Comme nous marchions silencieusement, la neige étouffant tout à fait le bruit de nos pieds chaussés de caoutchouc, nous entendîmes tout à coup des aboiements furieux. « La voix de Mars, » me dit Martin Numa. « Alors l'attaque est commencée. Nous arrivons à point. » Nous voilà aussitôt pressant le pas pour gagner la rue dans laquelle se trouvait l'hôtel du chevalier. Dans cette rue, presque devant la grille du jardin du chevalier Fontis, se trouvait un taxi. Un simple taxi parisien qui venait d'avoir une panne. Le chauffeur, furieux, criait mille injures plus grossières les unes que les autres, insultant son moteur, le temps, la neige, le verglas, la nature entière. Derrière la grille du jardin, Mars, sans doute réveillé en sursaut par ce tapage, sautait, aboyait de toutes ses forces. Le chauffeur, abandonnant alors son moteur, s'en vint plein de colère à la grille et se mit à invectiver le chien de façon plus vibrante encore, cherchant à le frapper à travers les barreaux. Martin Humain m'arrêta à quelques pas de cette scène et me colla contre le mur. Lui se dissimula de même, observant le jeu du chauffeur. « Voyez, me dit-il au bout d'un moment, ce gaillard-là fait l'homme sou, joue le rôle du chauffeur poivreau. Il excite le chien tant qu'il peut, mais il se garde bien de lancer le moteur. Donc il a mission de demeurer là, avec sa voiture vide, et de faire aboyer le chien, d'attirer l'attention de ce côté. C'est donc que ses complices opèrent d'un autre côté. » Vivement, Martin Humain s'en revint au bout de la rue. Il siffla doucement. Prosper accourut aussitôt, échangea quelques mots avec son chef. Quand Martin Humain revint près de moi, peu après, je vis venir avec Prosper deux hommes armés, l'un d'une pelle, l'autre d'un balai. Un troisième poussait une brouette remplie de gravier et de sel. L'équipe bientôt entoura la voiture. « Et là !» cria Prosper au chauffeur. « Laisse donc tranquille le cabot, tu vas réveiller le voisinage, et file avec ta carriole. » Le chauffeur marcha alors sur Prosper, lui demandant, en hurlant toujours, de quoi il se mêlait, l'insultant, le provoquant, cherchant à engager une bataille. Mais Prosper n'était pas homme à se laisser longtemps arrêter quand son chef lui avait donné un ordre. Il empoigna le chauffeur, et en deux vigoureux coups de poing adroitement envoyés, lui fit connaître les douceurs de ce qu'on appelle le passage à tabac fin, caporal supérieur. Puis il le jeta dans le taxi, dans lequel sauta aussitôt un des balayeurs, tandis qu'un autre grimpait sur le siège et démarrait vivement. « Edin, dit Martin Humain, nous allons pouvoir aller maintenant. » Prosper et de nouveaux hommes d'équipe accourus s'éparpillèrent dans la rue. La souricière s'établissait. Martin Humain s'approcha alors de la grille du jardin. Il ouvrit la porte, je le suivis. Mars, comme par enchantement, en apercevant, en flairant le policier, s'était amadoué et avait cessé de donner de la voix. Nous étions dans le jardin qui précédait la maison. « Par ici, me dit Martin Humain. Nous n'avons probablement rien à faire. Mes hommes gardent la rue, la grille, et ce n'est pas par là que les bandits opèrent. » Tout en nous abritant, nous cachant sous l'ombre des murs, des arbres, nous pûmes gagner le second jardin qui s'étendait derrière l'hôtel, plus grand de beaucoup que le premier, ayant les allures d'un parc. « Ah ! Fit Martin Humain, voilà par où il passe. » Il me montra, pendant au mur mitoyen, une échelle de corde grise, de la couleur de la muraille. Pour l'apercevoir, il fallait les yeux extraordinairement perçants de mon ami. Martin Humain s'approcha de l'échelle et donna, à hauteur d'homme, des coups de couteau aux cordes soutenant les marches, en corde également. Cependant, il ne les trancha pas entièrement. Il les laissa ainsi, ayant l'apparence de n'être pas coupé, mais devant se briser, céder, dès qu'on leur demanderait le moindre effort, tant soit peu de résistance. Puis il m'entraîna dans une allée d'où nous pouvions voir la porte vitrée de la bibliothèque, la grande baie au milieu de laquelle elle se trouvait aménagée. Sous un massif, tapis contre le sol, accroupi dans la neige, invisible, nous attendîmes, vraiment à l'affût, comme l'avait annoncé Martin Humain. « Ils sont certainement dans le jardin, » me dit mon ami. « Ils sont par là, aux aguets aussi, et comptant sur les aboiements du chien, qui doivent attirer l'attention de l'autre côté. Ils sont par là et vont entrer dans la maison. C'est le silence du chien qui les arrête en ce moment, les inquiète. » Mais Mars, qui s'était tu à notre entrée, recommença son tapage. Prosper l'excitait, reprenant le rôle du chauffeur. Par précaution, pour que le chien ne le suivît pas, ne le gênât en aucune façon, Martin Humain l'avait attaché à la grille. Il était forcé d'aboyer là-bas. « Ça doit, me dit mon ami, rassurer nos gaillards de ce côté-ci. » Tout à coup, Martin Humain me serra le bras. « Silence !» me souffla-t-il. « Immobile !» Je goûtais la minute émotion indescriptible du chasseur quand il voit s'avancer à bonne portée de son fusil le gibier désiré. Dans une allée qui venait couper celle non loin de laquelle, derrière un buisson de lauriers feuillus et verts encore sous la neige, nous étions, Martin Humain et moi, tapis, semblables maintenant à demi couverts par les flocons blancs à des mottes de terre, venait à une vingtaine de mètres environ de bouger quelque chose, de haut, de blanc. Cela s'avançait lentement, doucement, régulièrement, sans bruit, comme sans mouvement, cela semblait glisser. On eût dit deux fantômes. Les fantômes marchaient prudemment, l'un devant l'autre, dans le même sillage. Vraiment, dans cette sorte de demi-obscurité, sous le brouillard de neige qui tombait sur le fond blanc des sentiers, des pelouses, il était impossible, à moins d'être placés comme nous l'étions, Martin Numa et moi, il était impossible, surtout d'une fenêtre de l'hôtel, de voir ce qui s'avançait. Je me rappelais à ce moment que Martin Numa nous avait dit précisément, au chevalier Fontis et à moi, qu'on pouvait facilement marcher sur la neige sans être aperçu et y passer sans laisser derrière soi des traces de pas. Les deux fantômes usaient d'un des nombreux stratagèmes que connaissait également le roi des détectives. Les deux fantômes, les deux individus plutôt, jouant le rôle de fantômes, étaient revêtus d'un voile blanc, très long, qui les couvrait entièrement de la tête aux pieds et traînait derrière eux. La traîne appuyait fortement sur la neige. Elle devait contenir dans sa doublure des petits morceaux de plomb, quelque chose de lourd et qui, en effet, grattait la neige, que l'étoffe ensuite égalisait. La trace des pas se trouvait absolument effacée. Les deux hommes prudemment s'arrêtaient de temps en temps, épiaient, écoutaient, observaient et n'avançaient qu'après avoir acquis la certitude que rien de suspect ne se trouvait sur leur chemin. Non seulement nous ne faisions pas un mouvement, mais je crois qu'à ce moment nous n'osions même pas respirer, pour que la buée s'échappant de nos narines, de notre bouche, ne nous trahît point. Les fantômes, rassurés, passèrent devant nous. Ils n'eurent pas l'idée de fouiller du regard plus spécialement le massif dans lequel nous nous tenions. Leur attention, d'ailleurs, semblait être attirée par cette partie du jardin où le chien aboyait de plus belle et par les croisées de la maison vers laquelle ils se dirigeaient. Ils franchirent l'allée et rejoignirent ainsi la porte de la bibliothèque. Là, un moment, ils s'arrêtèrent, semblèrent de nouveau étudier, écouter. Tout bas, Martin Numa me dit « Ils appliquent contre la baie, le sol, un microphone pour percevoir le moindre bruit qui peut se faire dans la maison. Avec ces instruments, on entend les pas si on marche même sur un tapis, car le moindre craquement de plancher est fortement reproduit. Ils peuvent percevoir le plus petit mouvement qui se fait dans la maison et prendre ainsi leurs précautions, gagner le large, fuir. » Quand je vous disais, mon ami, que ces gens sont admirablement outillés, en effet, mais nous, qu'allons-nous faire? Attendre encore, jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la maison. Il faut cependant prévenir le chevalier. Impossible sans donner l'éveil, sans faire fuir nos gaillards, sans les manquer peut-être à jamais. Mais le chevalier court un danger. Non, pas encore. D'ailleurs, il doit se tenir sur ses gardes. Je l'ai prévenu, je lui ai indiqué ce qu'il y aurait à faire. Espérons que malgré tout il se souviendra de mes conseils. Tintin va donner l'alarme. Oui, mais souhaitons que, dans son zèle à prévenir, il n'aboie pas trop tôt. Pendant ce temps, les deux individus, sans doute rassurés par le silence de la maison, se décidèrent à pénétrer dans la bibliothèque. Doucement, avec une adresse que Martin Numa, qui s'y connaissait, déclara admirable, ils ouvrirent la porte. La porte, sans le moindre bruit, sans le plus petit grincement, tourna sur ses gonds et leur livra passage. Alors, ils laissèrent tomber de certaine façon leur long manteau sur la première marche de pierre qui, du parc, conduisait à la bibliothèque. Ainsi, tout à l'heure, ils pourraient, ou même en cas de poursuite, subitement se revêtir d'un coup, se cacher sous le linceul invisible aussi facilement qu'à présent ils s'en étaient dépouillés. Les deux hommes, cessant ainsi d'être fantômes, portaient des vêtements très ajustés, d'une couleur gris-bleu qui se fond dans la pénombre, se noie dans la moindre obscurité, sur laquelle la lumière ne s'accroche pas, en quelque sorte. Ils disparurent, comme des ombres dans l'entrebâillement noir de la bibliothèque, pénétrèrent décidément dans la maison endormie.